Étienne Bonneau de Condillac, Traité des sensations, partie 4, des besoins de l'industrie et des idées d'un homme seul qui jouit de tous ses sens. Chapitre 3, des jugements qu'un homme abandonné à lui-même peut porter de la bonté et de la beauté des choses. Définition des mots bonté et beauté. Les mots bonté et beauté expriment les qualités par où les choses contribuent à nos plaisirs. Par conséquent, tout être sensible a des idées d'une bonté et d'une beauté relatives à lui. En effet, on appelle bon tout ce qui plaît à l'odorat ou au goût, et on appelle beau tout ce qui plaît à la vue, à l'ouïe ou au toucher. Le bon et le beau sont encore relatifs aux passions et à l'esprit. Ce qui flatte les passions est bon, ce que l'esprit goûte est beau, et ce qui plaît en même temps aux passions et à l'esprit est bon et beau tout ensemble. La statue a des idées du bon et du beau. Notre statue connaît des odeurs et des saveurs agréables et des objets qui flattent ses passions. Elle a donc des idées du bon. Elle connaît aussi des objets qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle touche et que son esprit conçoit avec plaisir. Elle a donc encore des idées du beau. Le bon et le beau ne sont pas absolus. Une conséquence qui se présente, c'est que le bon et le beau ne sont point absolus. Ils sont relatifs au caractère de celui qui en juge et à la manière dont il est organisé. Ils se prêtent mutuellement des secours. Le bon et le beau se prêtent des secours mutuels. Une pêche que voit la statue lui plaît par la vivacité des couleurs. Elle est belle à ses yeux. Aussitôt, la saveur s'en retrace à son imagination. Elle est vue avec plus de plaisir. Elle en est plus belle. La statue mange cette pêche. Alors, le plaisir de la voir se mêle à celui de la goûter. Elle en est meilleure. L'utilité contribue à l'un et à l'autre. L'utilité contribue à la bonté et à la beauté des choses. Les fruits bons et beaux, par leur seul plaisir de les voir et de les savourer, sont meilleurs et plus beaux lorsque nous pensons qu'ils sont propres à rétablir nos forces. La nouveauté et la rareté y contribuent aussi. La nouveauté et la rareté y contribuent aussi, car l'étonnement que donne un objet déjà bon et beau par lui-même, joint à la difficulté de le posséder, augmente le plaisir d'en jouir. Deux sortes de bonté et de beauté. La bonté et la beauté des choses consistent dans une seule idée ou dans une multitude d'idées qui ont certains rapports entre elles. Une seule saveur, une seule odeur peuvent être bonnes. La lumière est belle. Un son pris tout seul peut être beau. Mais lorsqu'il y a multitude d'idées, un objet est meilleur ou plus beau à proportion que les idées se démêlent davantage et que leurs rapports sont aperçus, car on jouit avec plus de plaisir. Un fruit où l'on reconnaît plusieurs saveurs, également agréables, est meilleur qu'une seule de ces saveurs. Un objet dont les couleurs se prêtent mutuellement de l'éclat est plus beau que la lumière seule. Les organes ne peuvent saisir distinctement qu'un certain nombre de sensations. L'esprit ne peut comparer à la fois qu'un certain nombre d'idées. Une trop grande multitude fait confusion. Elle nuit donc au plaisir et par conséquent à la bonté et à la beauté des choses. Une petite quantité de sensations ou d'idées se confondent encore si quelqu'un domine trop sur les autres. Il faut donc, pour la plus grande bonté et pour la plus grande beauté, que le mélange en soit fait suivant certaines proportions. Comment la statue y est sensible? C'est à l'exercice de ses organes et de son esprit que notre statue doit l'avantage d'embrasser plus d'idées et plus de rapports. Le bon et le beau sont donc encore relatifs à l'usage qu'elle a appris à faire de ses facultés. Telle chose qui, dans un temps, a été fort bonne ou fort belle, cessera de l'être, tandis qu'une autre à laquelle elle n'avait donné aucune attention deviendra de la plus grande bonté ou de la plus grande beauté. En cela, comme en toute autre chose, elle ne jugera que par rapport à elle. D'abord, elle prend ses modèles dans les objets qui contribuent plus directement à son bonheur. Ensuite, elle juge des autres objets par ses modèles, et ils lui paraissent plus beaux lorsqu'ils leur ressemblent davantage. Car après cette comparaison, elle trouve à les voir un plaisir qu'elle n'avait point goûté jusqu'alors. Un arbre, par exemple, chargé de fruits, lui plaît et lui rend agréable la vue d'un autre qui n'en porte point, mais qui a quelque ressemblance avec lui. Pourquoi elle a à ce sujet moins d'idées que nous? Il n'est pas possible d'imaginer tous les différents jugements qu'elle portera suivant les circonstances. Ce serait d'ailleurs une recherche assez inutile. Il suffit d'observer qu'il y a pour elle, comme pour nous, une bonté et une beauté réelle ou arbitraire, et que si elle a à ce sujet moins d'idées, c'est qu'aussi elle a moins de besoins, moins de connaissances et moins de passions.